Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Binge Audio.
Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Je ne sais pas vous, mais moi ça fait des années que quand on me demande comment ça va, la plupart du temps, je réponds par une phrase du genre « un peu fatigué mais ça va ». Et c'est vrai que ça va plutôt pas mal. Simplement, je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est normal de traîner avec moi, l'impression d'avoir une éternelle dette de sommeil à rattraper. Une peur de l'épuisement qui arriverait sans crier gare sous forme de dépression ou de burn-out. Et en même temps, une culpabilité présente jusqu'au week-end, émergeant à la moindre sieste comme à la moindre grasse matinée. Sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé si vous étiez dans le même cas que moi et vous m'avez répondu que vous aussi vous étiez fatigué. Fatigué par la vie dans les grandes villes, par vos enfants, par le cumul de plusieurs boulots, par une dépression postpartum, un trouble de l'attention, une maladie chronique, les transports en commun, les réveils matinaux imposés par l'école ou par le travail, un chagrin d'amour, des amis toxiques, un manager toxique, des dettes accumulées, l'inaction climatique, la charge raciale ou le patriarcat. Vous et moi, nous ne sommes pas une exception. Selon l'assurance maladie, 10 à 25% des personnes qui consultent un médecin généraliste se plaignent d'être toujours fatiguées. L'IFOP et la Fondation Jean Jaurès évoquent de leur côté une fatigue généralisée et une épidémie de flemme, avec en 2022 par exemple, 4 Français et Françaises sur 10 qui se disent plus fatigués qu'avant la pandémie de Covid, 70% des interrogés qui déclarent avoir des problèmes de sommeil contre 49% en 2017, et 45% des personnes qui confient avoir régulièrement la flemme de sortir de chez elles. Au Royaume-Uni, l'épidémie de fatigue est si répandue que le Service national de santé britannique a même créé un acronyme pour parler de cette condition, TAT, T-A-T-T, pour Tired All The Time, c'est-à-dire fatigué tout le temps. Pour être honnête, j'en viens à me demander comment une société composée d'individus si fatigués parvient encore à tenir debout. Alors dans cet épisode, je voudrais comprendre. Pourquoi est-on si fatigué et que faut-il faire de toute cette fatigue? Pour en parler, j'ai convié à mes côtés le psychiatre Daniel Batoula et la chercheuse en sociologie spécialiste du sommeil, Capucine Roche. Vous pouvez les applaudir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les deux, Daniel, on ne te présente plus, mais on te présente un peu quand même. Tu es médecin psychiatre au CHU de Strasbourg, un habitué d'Encore Heureux. Le sujet de la fatigue, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé tous les deux, dont on parle depuis qu'on travaille sur Encore Heureux ensemble. On est fatigué. Ça fait un moment qu'on voulait faire cet épisode. Est-ce que toi, tu la constates, cette épidémie de fatigue dont je parlais en introduction?
Alors, j'ai pas l'impression de la constater plus que ça. Je vais pas dire que c'est une grosse épidémie, mais en tout cas, il y a une espèce de libération de la parole quand même par rapport à la fatigue. Les gens arrivent à en parler plus et ils viennent en parler en consultation. Dans ton introduction, tu as cité plein de facteurs qui entraînent toute cette fatigue. Et donc, les gens, ils disent, ah oui, je suis fatigué. Et en fait, quand on reprend les facteurs, ben, il y a de quoi être fatigué. Donc, on le ressent quand même beaucoup plus.
Alors on va y revenir évidemment à ces sources possibles de la fatigue. Capucine Roche, je me tourne vers toi. Toi, tu es chercheuse en sociologie. Tes intérêts de recherche portent sur les usages du temps, en particulier les horaires de sommeil et de travail, et sur les inégalités sociales qui lui sont associées. Le sujet de la thèse que tu as défendue l'an dernier, c'est le sommeil, une variable d'ajustement, différence sociale et genrée au cours du cycle de vie. Comment tu en es venue à t'intéresser à la question du sommeil?
Je me suis intéressée pour deux raisons, une un peu anecdotique et l'autre plus d'intérêt scientifique et méthodologique. Je commençais par la raison anecdotique qui est un détour d'une conversation avec une personne de mon entourage. Elle me disait « Ah non, mais c'est compliqué de dormir avec mon conjoint. Il se réveille tout le temps la nuit. Mais pourquoi tu ne fais pas chambre à part ?»« Ah, mais on ne va pas faire chambre à part quand même, on est mariés. » Donc je me suis dit « Ah, il y a sûrement quelque chose à creuser de ce côté-là, qu'il y a des normes là-dessus. Il faut dormir ensemble quand on est mariés. » Et la deuxième raison, c'est que, comme tu l'as dit, je m'intéresse aux usages du temps. Au cours de mon cursus universitaire, j'ai travaillé sur une enquête de l'INSEE sur laquelle je reviendrai, qui s'appelle « Emploi du temps » et que j'aime beaucoup. Je cherchais une manière de continuer à l'exploiter. Le temps de sommeil, ça m'est apparu comme une bonne idée parce que c'est souvent mentionné en disant « bah voilà, on a un temps limité, en plus on doit dormir, ça prend du temps, hop, c'est une contrainte temporelle », mais sans jamais s'y intéresser. Je me suis dit bah, « pourquoi pas s'intéresser au temps de sommeil et pas juste dire « c'est une contrainte ».
Oui, parce qu'en fait, dormir, on a l'impression que c'est une expérience naturelle, individuelle. Et en fait, ça peut être un objet d'étude sociologique. En quoi, en fait, ça peut être pour toi un objet d'étude sociologique ?
Ben parce que certes, on doit dormir pour vivre, mais ce n'est pas juste une nécessité biologique. Il y a tout un tas de facteurs sociologiques donc, qui entrent en compte. On dort à certains moments, on doit prendre en compte des contraintes professionnelles, par exemple, ou familiales, ces enfants qui vont à l'école, comme tu l'as mentionné dans ton introduction. Mais il y a aussi des normes qui sont attachées. On doit dormir à un certain endroit, à un certain moment, ou des valeurs. J'y reviendrai peut-être plus tard, c'est valorisé de peu dormir dans certaines sociétés, c'est plus rarement valorisé de beaucoup dormir. Donc voilà, tout ça pour dire que le sommeil, c'est pas uniquement quelque chose de biologique, il y a du social qui se cache derrière aussi.
Mais tu dis le sommeil est un phénomène culturel qui s'apprend.
Oui, ben, ça s'apprend. Si on pense aux enfants, on leur apprend que pour aller dormir, il faut se mettre en pyjama, il faut s'allonger, on éteint la lumière, peut-être qu'on lit une histoire avant... ça se fait dans certaines conditions, c'est pas quelque chose d'inné, enfin, ça se passe comme ça en tout cas en Europe, mais alors, j'ai pas étudié les autres sociétés, mais peut-être que ça se passe de manière différente, qu'on dort pas peut-être dans le même mobilier ou ce genre de choses, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qu'on apprend aux enfants, hein, comment on dort.
Et c'est marrant parce que en te lisant, quand tu dis le sommeil c'est quelque chose qui s'apprend, moi je suis enfant de parents divorcés et je me souviens que ma mère m'autorisait à me coucher après 9h et mon père à ne pas me coucher après 9h. Pour lui c'était absolument scandaleux qu'on me laisse me coucher plus tard, et je me souviens que ça avait été un peu sujet de dissonance en me disant mais du coup que faut-il faire en fait, et c'est en ce sens que je me suis dit ah oui c'est vraiment on nous apprend des choses et à déroger plus ou moins, et puis ça peut même être facteur de rébellion finalement quand on est adolescent et qu'on décide de veiller plus tard un peu discrètement, finalement il y a quelque chose un peu de subversif derrière ça.
Oui, et puis si on pense aussi ben, par exemple aux enfants, si on a le droit de dormir plus tard un soir, c'est vu comme quelque chose de valorisant, ou alors c'est pour une occasion particulière, c'est pour un anniversaire, c'est pour Noël, c'est le premier jour des vacances, on peut se coucher un peu plus tard, et au fur et à mesure qu'on avance en âge, bon certes on a besoin de moins de temps de sommeil biologiquement, mais il y a aussi ce « ah ben, on est un peu promu de pouvoir aller se coucher plus tard. Ben, maintenant, j'ai le droit d'aller me coucher après 9h, je fais partie des grands. »
Une sorte de privilège. Quoi.
Voilà.
Donc dans cet épisode, on va tenter d'en apprendre un peu plus, non seulement sur notre sommeil, mais plus généralement sur la fatigue. Je voudrais qu'on commence, Daniel, par comprendre un peu de quelle fatigue on parle. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre fatigue pathologique et non pathologique ?
Alors, une fatigue pathologique, c'est une fatigue qui survient de manière impromptue. On fait des activités habituellement qui nous fatiguent un petit peu, mais là, il y a plus de fatigue. Et la fatigue, on n'arrive pas à récupérer de cette fatigue alors qu'on a un temps de repos qu'on avait habituellement. C'est là où ça devient pathologique. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre, parce que la plainte de la fatigue, c'est un tiers du motif exact de consultation, mais en tout cas, quand les gens consultent un professionnel de santé, ils parlent de leur fatigue assez régulièrement, que ce soit chez le médecin généraliste ou chez le psychiatre ou chez d'autres professionnels, ils parlent de leur fatigue. Et donc, l'idée, c'est de voir d'où est-ce que peut venir cette fatigue. Est-ce qu'il y a des conditions plutôt physiologiques lié à l'âge, est-ce que c'est plutôt quelque chose lié à une pathologie comme un cancer, est-ce que c'est quelque chose lié à quelque chose d'une pathologie mentale, est-ce que c'est, comme tu l'as dit avant, sociétal ou environnemental, est-ce que c'est les conditions de travail, et ainsi de suite. Donc essayer d'identifier les différents facteurs qui peuvent expliquer cette fatigue, et puis ensuite, il y a des durées de fatigue. Si vous êtes fatigué depuis 2 jours, bon. Si vous êtes fatigué depuis une semaine, 1 mois, 6 mois, donc c'est de courte durée, une durée prolongée ou une fatigue chronique. Au-delà de 6 mois, on va parler de fatigue chronique. En dessous, entre 1 et 6 mois, on va parler de fatigue prolongée. Donc ensuite, il y a le syndrome de fatigue chronique. C'est une fatigue qui est là depuis plus de 6 mois, on n'arrive pas à récupérer, on ne comprend pas d'où ça vient, donc dans les différents facteurs que j'ai pu évoquer avant, on n'arrive pas à les repérer. Et donc là, les gens disent, bon ben voilà, on a ce qu'on appelle un syndrome de fatigue chronique, et c'est assez délicat parce que ben, il n'y a pas toujours de compréhension d'où est-ce que ça provient, cette fatigue-là.
Moi, j'ai plusieurs amis en tête qui ont cette fatigue chronique dont tu parles et qui me racontent que c'est très difficile pour eux à expliquer et comme ça se voit pas à l'œil nu, hein, c'est un handicap invisible en fait, la fatigue chronique, bah, en fait on a du mal à les croire. Et donc j'ai l'impression que ça peut être intéressant de se rappeler que quand quelqu'un dit qu'il ou elle est fatigué, ben bah, c'est bien de la croire en fait et peut-être de pas lui dire simplement bah dors.
Effectivement, c'est tout la problématique des pathologies invisibles. Si vous avez, si vous êtes en fauteuil roulant, les gens vont vous voir et vont pas vous dire, ben pourquoi tu prends l'ascenseur, prends l'escalier. Alors que quand vous avez une pathologie qui est invisible, et ben les gens ils vont remettre en doute votre parole, ils vont pas tout à fait vous croire sur ce que vous allez dire, et puis ils vont pas le remarquer ou ils vont banaliser un petit peu ça. Donc c'est important quand les gens vous disent quelque chose, qu'il y ait un diagnostic ou pas, c'est leur ressenti, c'est ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et la façon dont ils vivent les choses. Donc c'est important de les croire et de pas minimiser les choses et de pas donner des conseils parce qu'en fait peut-être que la personne a déjà essayé de dormir.
Sur le sujet, j'avais envie de vous conseiller un compte Instagram qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, qui est celui de Mathilde François, s'appelle La vie à croquer, qui aborde notamment le thème de la fatigue chronique et du handicap invisible. Et notamment, il y avait une publication qu'elle avait faite à la fin de l'été, l'année dernière, qui m'avait beaucoup marqué sur le retour de vacances et le stress des questions de type « alors tu t'es bien reposé ?» pour des gens qui, en fait, sont dans des situations de fatigue chronique où, en fait, bien reposer, ça n'existe pas dans leur vie.
Effectivement, c'est des questions qui reviennent et qui sont dérangeantes ou qui sont maladroites parce que c'est une question en fait que ben, la plupart des gens posent sans écouter parfois la réponse en fait. Mais c'est une question un petit peu habituelle ou au tac au tac comme ça. Mais l'idée c'est de pouvoir peut-être dire juste écouter ce que la personne a envie de vous dire et pas de vous poser des questions maladroites.
Alors même hors pathologie, les enquêtes sur la fatigue, on l'a un petit peu dit. Laisse penser que les gens sont de plus en plus fatigués, toujours sur les réseaux sociaux. Vous m'avez dit par exemple, je n'ai aucun souvenir de la dernière fois où je me suis sentie reposée. Je me suis sentie reposée il y a 16 ans, avant la naissance de ma fille. Il y a quelques mois, j'ai pris 2 jours de vacances et pendant 2 jours, j'ai pleuré dans une tente, pleuré de fatigue. Il y a 3 ans, en vacances, j'ai eu une énergie de dingue et à me demander ce qui se passait jusqu'à ce qu'un membre de ma famille me dise « bah en fait, tu t'es juste reposée ». Daniel, en quoi la fatigue, est-ce qu'elle peut impacter notre santé mentale?
Alors comme on vient de le dire juste avant, c'est quelque chose d'invisible. Donc, parfois, les gens vont pas bien comprendre qu'ils sont dans un état de fatigue. Ils vont se dire, je comprends pas, je suis maladroit, j'arrive pas à rester concentré, je fais des choses que d'habitude je fais pas, je fais pas ce genre d'erreur et ainsi de suite, et ils vont se culpabiliser. Donc ça, c'est la première difficulté qui peut se passer quand il y a des pathologies invisibles ou quand il n'y a pas de diagnostic ou quand on ne sait pas exactement qu'on souffre de quelque chose, c'est qu'on a tendance à se culpabiliser et donc ça va impacter l'estime de nous-mêmes et on va se dire mais en fait je suis bon à rien depuis 6 mois ou depuis 1 an ou depuis 2 ans. Et l'autre impact, c'est l'impact avec les autres personnes, c'est-à-dire que si vous dites régulièrement que vous êtes fatigué, les gens ils vont parfois être fatigués de vous entendre le dire et ils vont plus vous inviter à venir voir des choses, à avoir une vie sociale. Vous aussi, vous allez peut-être aussi vous couper de la vie sociale parce que vous avez besoin de plus de temps de repos, plus de temps au calme et ainsi de suite. Et ça va avoir un impact aussi sur votre santé mentale parce que vous allez vous retrouver de plus en plus isolé. Et l'isolement, on est des êtres sociaux, donc l'isolement, ça a un impact social, ça a un impact sur la santé mentale.
Alors, je trouvais ça important de se pencher sur les causes de la fatigue. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué? En réalité, il y a plein de raisons. Donc, tu l'as dit, peut-être pour des raisons pathologiques, mais au-delà de ça, il peut y avoir plein d'autres raisons. Je vais vous lister quelques facteurs que nous suggère l'étude IFOP, Fondation Georges Jaurès, que je citais là en intro. Une fragilité psychologique accrue, notamment pas pour des raisons d'éco-anxiété, angoisse politique, perte de sens aussi dans les vies qui sont les nôtres. Aujourd'hui, 31% des Français-Françaises disent ne pas se sentir suffisamment solide mentalement pour tout affronter dans leur vie quotidienne. Et c'est le cas de 40% des 25-34 ans. Donc, ça fait quand même pas mal de personnes qui s'estiment pas armées pour faire face et potentiellement fatiguées, en fait, de la vie. La question du manque d'activité physique aussi, Daniel, il me semble que c'est un sujet qui te parle.
On est dans une société où, en plus, on a passé une pandémie. Donc, on est habitué à avoir du télétravail, à être dans un mode de plus en plus sédentaire. Le fait d'être dans un mode sédentaire, ça, on a un organisme qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être en activité. Alors, je ne parle pas de faire des marathons, faire plein de choses. Non, de l'activité physique, comme je le dis souvent aux personnes qui viennent me consulter, c'est une demi-heure, 3 fois par semaine de la marche avec une autre personne avec qui vous arrivez à parler. Si vous parlez en marchant, c'est que vous êtes pas dans un effort. C'est un effort que vous allez pouvoir tenir pendant suffisamment longtemps et vous êtes à l'aise et c'est déjà un effort et c'est déjà largement suffisant. Mais beaucoup de gens ne disent qu'elles n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps parce qu'on est dans des transports en commun, parce qu'on a une trottinette électrique ou parce qu'il y a plein de choses qui sont qui font qu'en fait on a moins d'efforts physiques à faire et on se rend compte que quand il y a moins d'activité physique, le sommeil va être de moins bonne qualité, on va être moins fatigué physiquement et donc il va y avoir un impact sur notre temps de récupération, notre temps de sommeil, et ça c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc dans l'étude dont tu parlais juste avant, l'étude IFOP, on voit, ils le disent, que les jeunes font moins d'activité physique et en plus les performances physiques je crois que c'était 1600 mètres ou quelque chose comme ça, les résultats, ils ont rien à voir avec il y a 40 ans. Les jeunes ont moins de résistance physique ou une capacité pulmonaire moindre que les mêmes jeunes il y a 30 ou 40 ans d'écart.
Oui, donc en gros, dans la mesure du possible, faire de l'activité physique, quoi. Ce qui peut aider pour la fatigue. Dans les
et
autres,
pour la santé mentale, au passage.
Et pour la santé mentale. Je vous renverrai à l'épisode qu'on a fait sur le sport, sur le sujet. autre facteur, peut-être, qui peut contribuer à cette épidémie de fatigue, la culture néolibérale, et notamment ce que Alain Ehrenberg, dans La fatigue d'être soi, un livre de 1998, suggère, qui est qu'en fait, dans la culture dans laquelle on est, en fait, on nous demande de nous démarquer toujours plus, d'être en gros des gens exceptionnels, et ça nous fatigue, parce qu'en fait, on n'est pas forcément fait pour être constamment des gens exceptionnels et pour avoir à se démarquer sur les réseaux sociaux, par exemple, mais par ailleurs, je sais pas, en se livrant à des carrières ou en essayant de faire de sa vie quelque chose. Est-ce que, Daniel, pour toi, il y a une solution dans le fait, en gros, de s'autoriser une forme de médiocrité ?
Donc, comme tu l'expliquais, il y a cette culture d'être toujours au top, d'aller toujours bien, de toujours réussir encore mieux, de réussir de faire l'humain augmenter. Il y a cette course à vouloir faire toujours plus, cette course un petit peu capitaliste à vouloir faire toujours plus. Et de temps à autre, s'autoriser en fait à se dire « Ah ben moi, j'ai pas réussi à faire ça ou j'ai pas réussi à faire ça, ça fait du bien, ça nous rend un peu plus humains. » Et en parler avec des personnes autour de nous, dire « Ah ben tiens, la dernière fois, j'ai pas réussi à faire ça, alors que d'habitude, ça a l'air quand même assez facile. » Ben non, j'ai pas réussi à le faire, mais c'est pas grave. Et ça fait du bien, en fait, de pouvoir dire à des proches, ben non, je suis pas une personne exceptionnelle et je peux me tromper, je peux faire des erreurs, et voilà, et ça arrive. Et ça, quand on le dit, les autres vont pouvoir se dire, ok, cette personne que je pensais un peu exceptionnelle, ben en fait, elle se trompe, elle fait des erreurs, donc moi aussi, je peux me tromper et je peux en parler. Et ça soulage. Ça soulage de pouvoir dire aux autres, ben voilà, là, j'ai raté quelque chose. Comme avec la dépression, on en parlait aussi dans l'épisode de la dépression, on porte un masque pour dire aux gens qu'on va bien, mais en fait, quand on dit qu'on va pas bien, ça fait du bien, ça soulage et on peut dire aux gens, ben oui, je vais pas bien. Là, on peut dire aux gens, ben oui, je suis pas parfait.
J'ai l'impression qu'il y a une solution dans s'autoriser à faire moins de choses et notamment des choses qui nous saoulent, parce qu'en réalité, dans cette accumulation de choses qu'on s'oblige parfois à faire pour cocher des cases, il y a des choses qui ne nous font pas spécialement plaisir.
Et c'est ça. Il y a des choses qu'on fait parce que on est dans un monde social où on se dit il faut le faire, il faut être dans la norme, il faut appartenir au groupe. Et si on ne le fait pas, on a toujours cette peur d'être exclu du groupe et de plus appartenir. C'est comme dans les petits groupes au collège. Si vous n'êtes pas dans le groupe, on est exclu et ça peut être très difficile à vivre. Mais en fait, une fois qu'on comprend certains mécanismes, on peut se dire, mais en fait, j'ai le droit de ne pas faire comme les autres à certains moments, et c'est pas pour autant que je vais être mis au banc de la société ou que plus personne va me parler. Si j'ai pas envie d'aller manger avec les collègues tous les midis, en fait, c'est pas grave, il y a de temps à autre, je vais manger avec eux, puis des fois où j'ai pas envie, je leur dis, ah non, aujourd'hui, je mangerai pas avec vous. Et on peut déculpabiliser et s'autoriser à se dire, je vais me prendre du temps pour faire quelque chose dont j'ai vraiment envie et pas faire quelque chose parce que les autres le font.
J'ai l'impression qu'il y a aussi, notamment dans des quotidiens urbains, une espèce de surstimulation sensorielle. Et notamment, quand on en parlait ensemble, Daniel, je te disais, moi, je suis très, très sensible au bruit. Et tu conseillais, en gros, je crois, d'identifier des éléments très concrets qui nous fatiguent, par exemple le bruit, et de faire en sorte de s'en passer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ?
Donc, comme tu l'as expliqué un petit peu, on a différents sens, on a cinq sens. Et l'idée, c'est qu'on est surstimulé de façon assez permanente par rapport à tous nos sens. Et c'est intéressant de pouvoir identifier cette surstimulation et se dire, qu'est-ce qui, moi, me dérange ? Est-ce que c'est la lumière dans les hôpitaux qui est très particulière ? Est-ce que c'est le bruit dans les supermarchés ? Ou est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est d'aller dans un supermarché où il y a plein de monde et d'avoir du contact avec des personnes que je connais pas ? parce que les rayons sont étroits et ainsi de suite. Voilà, j'identifie les différentes choses qui me posent problème ou les différents sens qui sont exacerbés peut-être chez moi à certains moments et j'essaye de sortir de cette normalité et d'aller pas faire mes courses au supermarché quand il y a plein de monde ou pas faire mes courses dans un supermarché tout court ou éteindre ma lumière quand je me brosse les dents. Par exemple, moi, j'aime pas la lumière trop forte le soir, donc je me brosse les dents dans le noir. Bon. Voilà. Et en fait, ça me fait du bien, ça m'apaise et je me sens détendu à ce moment-là et j'ai pas cette surstimulation visuelle. Ça, je pense que c'est assez important de le faire. Les personnes qui ont un trouble du spectre autistique ont une sensibilité sensorielle, donc à tous leurs sens, ils vont avoir ça. Et en fait, ces personnes-là, assez rapidement, mettent en place des stratégies. Elles ne supportent pas, par exemple, le contact de certains types de vêtements, et donc elles n'achètent pas ce type de vêtements. Elles ne s'obligent pas à le porter. Les jeans. Alors, les jeunes portent des jeans à certains moments parce que c'est la mode et parce qu'il faut en porter. Et en fait, il y a plein de personnes qui disent « Mais en fait, moi, je trouve ça désagréable, mais j'en porte pour être un peu comme tous les autres. » Et l'idée, c'est de se dire « Je vais m'autoriser à plus porter de jeans. » Et en fait, ça va me faire un petit peu une charge mentale en moins dans la journée, un désagrément en moins toute la journée, et je vais être moins fatigué parce qu'au final ça fatigue tous les jours d'avoir cette sensation désagréable qu'on n'est pas obligé de s'imposer au final.
Alors évidemment, dans les choses qui nous fatiguent, il y a aussi un peu l'éléphant dans la pièce, c'est le travail, hein, qui nous, je crois, nous épuise de plus en plus. Selon une étude de l'Institut Montaigne de 2023, 60% des salariés considèrent que leur charge de travail a augmenté au cours de ces 5 dernières années. Et couplé à ça, il y a, on l'a évoqué brièvement en intro Capucine, une culture néolibérale qui déconsidère le repos. Je pense par exemple à cette terrible expression « on se reposera quand on sera mort ». Capucine, c'est un sujet que tu évoques dans ton travail. On peut un peu dater historiquement le moment où on commence à juger le trop-plein de repos. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça?
Globalement, jusqu'au début de l'ère industrielle, même un peu avant, il n'y a pas tant d'horloges que ça. Et donc, finalement, le temps n'est pas rythmé de manière mécanique comme on le connaît maintenant avec des horloges qui nous disent à chaque minute, chaque seconde, quelle heure il est. Et le travail était orienté par la tâche à faire, utiliser sa journée pour faire le travail qu'on avait à faire, mais sans qu'il y ait des obligations sur les horaires. Puis progressivement, entre le 14e et le 17e siècle, l'horloge a pris de plus en plus de place et on a commencé à considérer que le temps, ça avait une valeur marchande. Et donc, la paresse, l'oisiveté, c'était déconsidéré, c'était perdre son temps, c'était... quand on dit le temps c'est de l'argent, le temps ça devient de l'argent. Le travail n'est plus seulement orienté par la tâche, il faut le faire dans un temps imparti. Et en parallèle de ça, au XVIIe siècle, commencent à apparaître des écrits de théologiens ou responsables religieux notamment qui font une condamnation morale de la paresse, de trop dormir. Trop dormir, ça ramollirait l'esprit, ça ramollirait le corps. Il faut juste dormir ce qui est nécessaire pour la santé, mais après, il faut se lever, il ne faut surtout pas rester dans ses draps, ça nous rend mou. Voilà, il y a cette déconsidération du sommeil. Puis après, avec l'ère industrielle, et puis à partir du XIXe siècle, on commence à pouvoir travailler en continu, ce qui n'était pas le cas avant. Et la nuit, ça devient un nouvel objet de conquête pour le travail, pour la productivité.
Parce qu'on invente l'électricité, en fait.
Voilà, donc on peut continuer à travailler la nuit. Marx, dans le Capital, écrit notamment que la nuit, ça devient un nouvel endroit à conquérir pour la productivité. Et donc, c'est la... La productivité à la conquête du sommeil, en quelque sorte.
Tu montres que du coup, notre rapport au repos, notamment la quantité, la qualité de sommeil, aujourd'hui dit quelque chose de notre place sociale. Et par exemple, tu parles de ces cadres supérieurs qui aiment un peu, en gros, insister sur le peu de temps que leur laisse leur emploi du temps chargé, par exemple, pour se reposer.
Voilà, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est qu'il y a, c'est socialement valorisé de dire qu'on dort peu. Ça l'est beaucoup moins de dire qu'on a besoin de beaucoup dormir. Et alors, c'est notamment chez les cadres, on dit « Ah non, là, je peux pas, je suis débordée, j'ai plein de choses à faire, j'ai encore une réunion », ce genre d'expression. Mais on l'a aussi chez nos responsables politiques. Enfin, régulièrement, on voit valorisation de « Ah, telle personne politique, elle a besoin de très peu dormir, c'est vraiment présenté comme quelque chose de super chouette ». C'est rarement l'inverse. Rarement, on va nous dire « Ah, cette personne a besoin de dormir 8 à 10 heures par nuit, c'est super génial, et en plus, elle prend ses 10 heures. » C'est Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu d'article comme ça.
Ah oui, on peut citer l'exemple de l'Express en 2017 qui parlait du président Macron en disant qu'il ne somnolait jamais, qu'il écrivait à ses ministres au milieu de la nuit, disant aussi que le macronisme est une insomnie. En 2020, Olivier Véran, ministre à l'époque, qui dit que Macron ne dort que 3 heures par nuit. Donc, on adore parler du fait que notre président n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Évidemment, en fonction du bord politique de chacun, on peut le voir de façon plus ou moins positive ou négative. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le capitalisme à l'assaut du sommeil de Jonathan Tancrary, sorti chez La Découverte, qui dit que dans notre société, le sommeil est l'une des dernières barrières qui nous empêche de consommer ou de travailler pour le capitalisme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Daniel, comment est-ce qu'on peut contrer ce climat de culpabilité vis-à-vis du repos en fait, que nous pousse cette culture néolibérale ?
En prenant nos jours de repos, qui sont déjà officiellement dans certains textes de loi ou certaines entreprises, à l'hôpital, on m'a proposé à un moment donné un poste en me disant « Ah, t'as tant et tant de jours de repos, mais t'inquiète pas, de toute façon, t'auras tellement de travail, t'auras même pas le temps de les prendre, en fait, tes jours de congé. » Ben oui, mais bon, en fait, moi, ça me fait pas rêver d'avoir des jours de congé que je peux même pas prendre au final. Je comprenais pas trop l'intérêt. Je veux bien, j'aime mon métier, mais quand même, avoir des moments de repos, c'est quand même assez important. Donc, déjà, bien se renseigner sur le nombre de moments de repos et de jours de repos qu'on a le droit officiellement. Et ensuite, essayer d'en parler autour de nous, essayer d'en parler et de valoriser le temps de, ben, tiens, j'ai rien fait ou, ben, je me suis reposé, en fait. Et justement, essayer de contrer un petit peu cet engouement qu'on a de dire oh, j'ai dormi 3 heures ou je suis charrette ou j'ai plein de travail. Non, ben en fait là j'ai un peu moins de choses à faire et puis c'est bien, ça me va bien et j'en profite. Donc ça c'est je pense que c'est important de pouvoir prendre ce contre-pied là.
Est-ce qu'on peut imaginer une société où un jour on serait fier de dire bah là je suis épuisé, j'ai besoin de repos, je vais me reposer en fait.
Ça serait bien, ça serait bien que les gens osent dire ben je suis fatigué, osent se l'avouer, en général les gens arrivent à s'en rendre compte mais n'osent pas l'avouer, n'osent pas le dire aux collègues de travail. Là en fait j'en peux plus, je suis complètement saturé, si je continue ben je vais faire des erreurs et ça va pas être je vais mal faire ma tâche que j'ai envie de faire. Donc c'est important de pouvoir dire ben oui j'arrête, je prends une pause et je prends du temps pour moi, ça c'est important aussi.
Alors l'une des causes de la fatigue c'est aussi le manque de sommeil. Il y a des chiffres de Santé publique France en 2019 qui disent par exemple qu'en 2017 on est passé pour la première fois sous la barre des 7 heures de sommeil par nuit. On est aujourd'hui autour de 6h40 selon cette étude. Selon l'Institut du sommeil et de la vigilance, les Français ont perdu 15 à 16 minutes de sommeil en seulement un an. Pour compenser, ils proposent par exemple de privilégier la sieste, mais encore faut-il pouvoir la faire, peut-être qu'on y reviendra, Capucine. Le sommeil est aussi impacté le week-end ou pendant les congés. Donc en gros, avant, les gens dormaient. Quand ils dormaient moins, ils pouvaient se reposer un peu plus le week-end et on est en train de se dire que peut-être c'est moins le cas aujourd'hui pour diverses raisons. Et la même étude suggère par exemple que les Françaises sont de plus en plus des courtes et courtes dormeuses, que les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit représentent environ 35,9% des sujets. Plus d'un tiers des Français dorment moins de 6 heures. Et le taux d'insomnie actuel est à l'un de ses plus hauts niveaux, 20% contre 13% en 2017 et 16% en 2010. Capucine, dans tes recherches à toi, tu nuances un petit peu ce truc-là parce qu'on dit beaucoup les gens dorment moins, on te fait moins d'heures de sommeil qu'avant. Toi, c'est pas tout à fait ce que tu observes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi t'observes, mais aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre ce que toi t'observes et cette étude que je viens de citer ?
Alors oui, c'est souvent une question qu'on me pose parce que donc moi j'ai travaillé sur des enquêtes de l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui s'appelle Emploi du temps. Donc c'est une enquête dans laquelle on demande aux personnes de décrire ce qu'elles font dans une journée. Par le menu, enfin, dire de telle heure à telle heure j'ai fait ça, j'étais travaillé, puis ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, j'ai regardé la télévision, je me suis brossé les dents, j'ai lu dans mon lit et ensuite je me suis couchée. Ensuite, ces activités-là, on les recode, on les transforme un peu pour que ça puisse être analysé par des chercheurs. Parce que si à chaque fois on a ce que la personne a écrit elle-même et qu'on a 15 000 personnes, c'est impossible à analyser. Donc en fait, dans ce qui est considéré comme du sommeil dans mon enquête, c'est un peu plus du temps qu'on passe dans son lit. Il y a à la fois, si on a lu un livre dans son lit et qu'on a écrit « je suis dans mon lit », ça va déjà être considéré comme du sommeil. Le temps dont on a besoin pour s'endormir, ce sera déjà considéré comme du sommeil. Le temps qu'on passe dans son lit le matin en écoutant son réveil, sa radio peut-être, c'est encore un peu considéré comme du sommeil. Donc en fait, ce que moi j'observe, c'est du temps qu'on passe dans son lit. Et ça, donc moi j'observe entre la première enquête que j'ai, c'est 1985, et la dernière que j'ai, c'est 2010. La prochaine est en train d'être construite, donc je l'attends avec impatience. J'observe pas vraiment de diminution du temps que moi j'appelle du temps de sommeil, mais qui est en fait plutôt du temps qu'on passe dans son lit. Ce que j'observe en revanche, c'est un peu un décalage. On se couche un peu plus tard, mais on se lève un peu plus tard. Alors que dans les enquêtes que tu mentionnais, on pose plus directement la question aux personnes, combien de temps vous avez dormi en moyenne la semaine dernière, ou en général, combien de temps est-ce que vous dormez la nuit? Et là, les personnes doivent se dire, bon, ok, j'ai dormi à peu près, généralement, elles disent une heure ronde, 7 heures, 6 heures et demie, parce que c'est plus facile de s'en rappeler. Mais il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par des chercheurs aux États-Unis qui essayaient de comprendre, ben voilà, quand on pose une question sur le sommeil, comment est-ce que les personnes s'y prennent pour répondre? Et généralement, c'est pas, les personnes ne savent pas vraiment combien de temps elles ont dormi. Donc, elles développent des stratégies. Bon, j'ai regardé la télévision, je sais que le film s'est fini à 22h30. Après, j'ai encore fait ça, donc j'ai dû me coucher vers 22h45. Puis, mon réveil sonne à telle heure, donc j'ai dormi tant de temps. D'autres se disent juste, j'ai dormi à peu près 7h30. D'autres encore n'ont aucune idée, font une approximation. Donc voilà, il y a se rappeler de son temps de sommeil, c'est pas si facile parce qu'en fait, on dort, donc on ne sait pas exactement à quel moment on s'est endormi. Donc tout ça pour dire que moi, j'observe pas de diminution du temps que j'appelle du sommeil, mais j'ai pas la même méthode que les enquêtes de Santé publique France, par exemple.
Parce que ce que tu étudies, du coup, les chiffres, les données s'arrêtent à 2010, et entre 2010 et maintenant, il y a eu quand même une accélération ou un petit peu plus de place, notamment des écrans dans nos vies, en réalité. Et c'est ce que Santé publique France identifie comme l'une des causes probables du fait qu'on dormirait moins. Je peux vous en citer d'autres. Le travail de nuit, qui en fait a augmenté. Les temps de trajet, qui ont augmenté aussi, en ville et dans les zones rurales. Les personnes les moins diplômés ou vivant dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants courent plus de risques d'être de courts dormeurs du fait des temps de trajet. Un environnement nocturne aussi délétère, le bruit. Hein. On sait qu'aujourd'hui, vivre dans des endroits calmes, c'est un privilège qui est réservé à de moins en moins de personnes. Puis la pollution lumineuse dans nos villes. Est-ce que, Daniel, tu peux nous dire un petit peu sur la santé, les effets du manque de sommeil?
Le manque de sommeil va avoir différents impacts au niveau de notre santé. Donc ça va avoir déjà des impacts au niveau de notre santé physique, et vous allez le ressentir dès que vous faites une nuit blanche ou dès que vous dormez un petit peu moins pendant quelques jours. On va être moins vigilant, on va faire plus d'erreurs, on va être plus inattentive. Et ça va aussi avoir des impacts qu'on va pas percevoir directement. Mais par exemple, le temps de cicatrisation ou le système immunitaire va être beaucoup moins performant quand ça, c'est quelque chose sur plusieurs mois, votre sommeil est altéré. On se rend compte que le temps de cicatrisation et le système immunitaire, comme dit, est moins performant. Il va y avoir un plus gros risque chez les personnes qui ont des problèmes de sommeil de développer des maladies cardiovasculaires, donc de l'hypertension ou d'autres types de maladies cardiovasculaires. Il y a le diabète aussi qui va être plus augmenté quand on dort moins bien, des pathologies gynécologiques qui peuvent se développer. Donc quand vous êtes enceinte et que le sommeil est de moins bonne qualité, il peut y avoir des retards de croissance intra-utérin, donc l'enfant qui grandit moins bien, il peut y avoir des avortements spontanés ou il peut y avoir des naissances prématurées. Ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu santé physique. Et puis il y a aussi un impact très important hein, au niveau de la santé mentale, ce qui est plus mon domaine. Et donc dans cette santé mentale, quand le sommeil est altéré de façon chronique, on va avoir des symptômes de dépression qui vont se développer parce que le sommeil, comme je dis tout le temps à mes patients, les personnes qui viennent me consulter, c'est une des premières choses sur laquelle je vais assez focaliser, voir comment est votre sommeil, comment est-ce que vous arrivez à vous reposer, comment est-ce que vous dormez, parce qu'on sait très bien que si les gens dorment mal, elles vont être plus irritables, ou alors s'il y a des pathologies qui sont déjà présentes, ça va déséquilibrer totalement la pathologie. Si vous avez un trouble bipolaire, que vous ne dormez pas pendant 2 jours, vous allez passer à ce qu'on appelle en phase maniaque ou en phase hypomane, et ça va, alors que votre traitement était bien équilibré, mais juste ce manque de sommeil-là va avoir un impact considérable. Et donc on voit que quand on a une pathologie psychiatrique ou quand on n'en a pas, le fait d'avoir un sommeil de moins bonne qualité va entraîner différents types de pathologies qui vont émerger de plus en plus. Dans la scolarité aussi, hein, si les personnes qui sont en cours d'apprentissage ont un sommeil de moins bonne qualité, il va y avoir des difficultés d'apprentissage puisque c'est pendant le sommeil aussi où on enregistre beaucoup de choses. Donc là, il va y avoir un problème de scolarité, un problème d'apprentissage, et ça peut y avoir des répercussions plus importantes au fur et à mesure.
Alors on n'est pas tous et toutes impactés par la fatigue et par le manque de sommeil de la même manière. Ça dépend bien sûr de facteurs individuels, on l'a dit, mais ça dépend aussi beaucoup de notre réalité sociale. On en parle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on se penche sur notre fatigue avec Daniel Batoula et Capucine Roche. Capucine, dans ton travail, tu montres que le sommeil est, comme le reste de la vie hein, finalement, soumis à d'importantes inégalités sociales. Lesquelles par exemple ?
Il y a d'une part des inégalités sociales, donc entre les classes sociales et des inégalités de genre, donc entre hommes et femmes. Si je commence par les inégalités, disons, sociales, on constate que les personnes n'ont pas toutes la même possibilité de dormir un temps de sommeil suffisant, ou dormir avec des horaires réguliers, ce qui est préconisé par la médecine pour être en forme et en bonne santé, notamment si on pense par exemple aux ouvriers qui travaillent de nuit ou qui ont des horaires de travail alternés, avoir un sommeil régulier, c'est mission quasiment impossible, d'autant plus si on a une famille ou si on veut pouvoir voir ses amis, on ne peut pas juste décider de toujours vivre la nuit et dormir le jour, dans ce cas on n'a plus de vie sociale. Il y a aussi des inégalités de genre. Donc, ce que je constate dans mes travaux, c'est que le sommeil des femmes est plus impacté que le sommeil des hommes par la présence d'enfants, par exemple. Elles vont davantage prendre sur leur sommeil si elles ont besoin de temps pour faire autre chose. Elles vont avoir un temps de sommeil qui est plus réduit que celui des hommes quand elles ont des enfants, notamment en bas âge. Elles font aussi plus souvent la sieste, mais peut-être parce qu'elles dorment moins la nuit, donc elles ont peut-être besoin de compenser. Donc voilà, avoir un temps de sommeil considéré comme suffisant ou avoir des horaires de sommeil réguliers, c'est pas possible pour tout le monde.
Sur la question de genre, je voudrais revenir un instant. Tu montres par exemple que femmes et hommes ne se livrent pas aux mêmes activités lorsque leur conjoint dort, notamment le matin. Les hommes se lèvent plus pour des raisons exclusivement professionnelles. Les femmes se lèvent en gros pour faire des tâches ménagères, quoi.
Oui, j'ai regardé une des choses à laquelle je me suis intéressée, c'est l'insynchronisation du sommeil dans les couples. Est-ce que les deux conjoints dorment au même moment et sinon, pourquoi ? Globalement, si les conjoints ne peuvent pas dormir en même temps, c'est généralement que l'un travaille la nuit et l'autre le jour, ou l'un finit de travailler très tard ou commence à travailler très tôt. Enfin, c'est les horaires de travail qui impactent énormément cette possibilité de synchronisation. Et j'ai aussi regardé quand il y a un des deux conjoints qui se lève plutôt que l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai étudié uniquement des couples hétérosexuels, c'est des couples homosexuels, il n'y en a quasiment pas dans mon enquête. Donc quand les hommes se lèvent plus tôt, ils font surtout des activités qui les préparent à aller travailler. Donc ils se lavent, ils déjeunent, ils font leur trajet jusqu'au travail, puis ils travaillent. Alors que les femmes, quand elles se lèvent plus tôt que leur conjoint, elles déjeunent. Elles s'occupent de leurs enfants, elles font des tâches ménagères, elles font leur trajet pour aller travailler, puis elles vont travailler. Il y a toute cette partie dédiée à la gestion des enfants ou du foyer qui est faite par les femmes mais qui n'est pas faite par les hommes quand un des deux membres du couple se lève plus tôt que l'autre.
Alors, il y a quelque chose que tu n'étudies pas dans ton travail, c'est les enjeux d'inégalité raciale vis-à-vis du sommeil. Je peux citer des études américaines sur le sujet. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs études qui montrent que les populations des communautés afro-américaines, hispaniques et latino-américaines rapportent plus de difficultés à s'endormir, ont un sommeil de moins bonne qualité et dorment moins longtemps que les personnes blanches, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étudier ça en France, Capucine ?
Alors, on ne peut pas le faire en France parce que la statistique publique ne peut pas collecter d'informations ethno-raciales sur la population. On ne peut pas compter le nombre de personnes latino-américaines ou afro-américaines comme aux États-Unis. Je n'ai pas d'indication dans ma base de données. Est-ce que cette personne a telle ou telle origine ethno-raciale ?
Daniel, est-ce qu'il y a d'autres façons par exemple, de savoir si les personnes racisées sont plus fatiguées, par exemple, que les personnes blanches en France ? Est-ce qu'on peut... on a voilà, des manières d'avoir cette information pour autant, ou c'est vraiment un angle mort pour l'instant de la recherche ?
Dans la recherche, c'est un angle mort parce que, comme Capucine l'a dit, en France, la race n'existe pas. On a l'impression que aucune statistique ne mentionne l'origine ethnique des personnes. Il y a un gros tabou là-dessus en France, hein, qui est très problématique depuis de nombreuses années. Par contre, aux États-Unis, il y a aucun souci par rapport à ça. Eux, ils sont tout à fait ouverts à pouvoir cocher des cases et à pouvoir dire, ben voilà, je suis de telle et telle origine. En France, pas du tout. Donc, ça va pas être des statistiques officielle, mais par contre ça va tout ce qui est associatif, je pense à des sites internet ou ce genre de choses, mais en fait c'est que des personnes qui vont pouvoir en parler entre elles et que des petites associations, mais officiellement il n'y aura pas de chiffres qu'on va pouvoir avoir là-dessus.
Alors Capucine, dans tes recherches, tu soulignes un certain nombre d'observations qui démontrent globalement une inégalité dans la possibilité de bien dormir. Est-ce que pour toi, en tout cas de dormir de façon égale entre les personnes, est-ce que pour toi cette inégalité face au sommeil, elle est prise en compte aujourd'hui dans les politiques publiques?
Alors, j'ai pas vraiment l'impression. Enfin, si je fais un parallèle que j'aime bien faire, c'est avec l'alimentation. Il y a tout un tas de campagnes de manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, parce que l'alimentation, c'est très important pour être en bonne santé. Et on est quand même souvent confronté à des messages de ce type-là. Par contre, sur le sommeil, on a tous les ans, à la période de la journée du sommeil qui arrive en mars, la durée moyenne du sommeil des Français sur l'année passée. On nous dit que ça a encore diminué par rapport à l'année précédente. Très bien, on en parle un peu en mars, et puis après, on n'en parle plus. J'ai encore jamais vu de campagne qui fasse la promotion du sommeil ou d'affiche dans le métro d'un organisme gouvernemental qui dirait « pour être en forme, dormez suffisamment ou dormez régulièrement ». Voilà, par contre, c'est un sujet qui intéresse régulièrement les médias sous toutes leurs formes. Il y a souvent des sujets sur les Français dorment moins. Un sujet de thèse intéresse aussi beaucoup les gens parce que le sommeil, ça parle à tout le monde. On a l'impression d'en manquer, mais finalement, on n'en fait rien.
Et par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, toi, si on se basait sur, en gros, tes observations, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser si on devait conseiller des gens qui sont en position de mettre en place des politiques publiques?
Alors, je pense que la première chose que je leur proposais, c'est de réduire le temps de travail pour qu'on ait plus de temps pour se reposer, mais pour faire aussi d'autres choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire à cause de nos horaires de travail ou de notre temps de trajet. Donc, peut-être qu'on diminue notre temps de sommeil pour pouvoir faire ces choses qu'on a envie de faire, des loisirs ou s'occuper de personnes proches ou voir ses amis.
C'est un sujet qu'on a évoqué dans un épisode avec la philosophe Céline Marty qui s'appelait « Peut-on vraiment travailler et être heureuse ?» Je voudrais vous poser un peu la question de dans cette culture néolibérale dont on a pas mal parlé, il y a une pression à la performance, à la perfection. Et j'ai l'impression que cette pression à la perfection, elle se ressent aussi dans le sommeil. C'est-à-dire que non seulement en gros, s'il s'agit de dormir, il faut dormir très très bien. Et donc c'est cool parce que ça nous permet de nous vendre, je sais pas, des matelas à mémoire de forme, des applis de gestion du sommeil, des compléments alimentaires qui pourraient nous permettre de mieux dormir. Comment est-ce que tu analyses cela, Capucine? Comment est-ce que tu analyses cette espèce de nouveau marché du sommeil en fait qui a émergé en quelque sorte?
C'est un peu comme ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur le culte de la performance, il faut être une personne parfaite, il faut être un super parent, il faut être un super dormeur, il faut être un super salarié, il faut être un super chercheur pour avoir un poste aussi. il faut être super dans tout et il faut aussi être performant la nuit quand on dort et qu'on s'en rend pas compte.
Ça me paraît un peu paradoxal avec Daniel, tu me diras si je me trompe, mais une réalité du sommeil qui est en fait, plus on se met la pression sur le sommeil, par exemple en comptant ses heures de sommeil, moins on dort bien en réalité.
Si on se met beaucoup de pression, on va être très angoissé, donc ça va retarder notre endormissement. Et puis si on se réveille au milieu de la nuit, quand on commence à regarder l'heure, on va paniquer parce qu'on va se dire « Ah, il est tant et tant d'heures, j'ai dormi tant et tant de temps, vite, il faut que je me rendorme. » Et puis on n'arrive pas à se rendormir, donc on va à nouveau regarder l'heure. Et voilà. Si on arrive à se foutre la paix, entre guillemets, ou si on arrive à juste pouvoir prendre un peu de recul et se dire « bon, ben voilà, je me suis réveillé, bon, c'est pas si dramatique que ça, ma nuit sera un peu écourtée, ou voilà, tant que c'est pas quelque chose de chronique ou de régulier, voilà, ça peut arriver de temps à autre, et l'idée, c'est de pouvoir se détacher un petit peu de ça, et encore une fois, comme Capucine l'a dit, de pas être un super dormeur absolument, ou une super dormeuse, je peux m'autoriser à certains moments à dormir moins bien, et sans avoir à acheter des matelas à mémoire de forme ou plein de choses, parce que c'est, encore une fois, essayer de nous vendre vendre des choses, comme tu le disais avant, Capucine, c'est un marché. C'est un marché, c'est quelque chose sur lequel il y a de l'argent, il y a de l'enjeu. Donc, pourquoi ne pas vendre des choses aux gens et leur dire grâce à ça, vous dormirez mieux ?
Alors, il y a des réflexions historiques qui m'ont un peu déculpabilisée, moi, sur la question du sommeil, parce que j'avoue que. Petite confession, en ce moment je dors 6 heures par nuit puis j'essaie de faire des siestes et j'avais l'impression pendant longtemps d'être une très mauvaise dormeuse et je me jugeais beaucoup. Et puis j'ai lu le travail de l'historien Roger Ekirch qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La grande transformation du sommeil, comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits, qui raconte que, en tout cas qui suppose que durant des millénaires le sommeil humain est un peu coupé par une phase d'éveil nocturne. Donc en gros ce qu'il montre c'est que pendant longtemps les gens se réveillent après minuit puis se rendorment pour le reste de la nuit. Donc qu'est-ce qu'ils font après cette première début de nuit, après ce premier début de nuit, ils font l'amour parfois, ils se livrent à des pratiques spirituelles, mais ils font aussi des choses très pratiques. Ils donnent par exemple l'exemple de ce fermier qui se lève aux environs de minuit pour empêcher la destruction de ses champs par du bétail. Ils citent aussi les femmes qui s'occupent des enfants, surprise, font des lessives et autres activités en gros entre leur première nuit et leur deuxième nuit. Du coup, ça m'a un peu déculpabilisée. Je me suis dit, ah mais en fait, on peut aussi, évidemment, encore faut-il pouvoir avoir la vie qui va avec, mais transformer un petit peu son rapport au repos et s'inventer en quelque sorte sa propre manière de se reposer, Daniel.
Je pense que c'est comme tu l'as montré un peu dans ton étude, Capucine, ou ce que tu as pu dire, c'est qu'on voit qu'il y a eu une transformation avec l'ère industrielle et donc le temps, le travail. Et si on n'était pas obligé d'aller au travail, on se dirait, en fait, je suis fatigué, donc je vais dormir. Donc, bon, il est 15h, c'est pas grave, je fais une sieste, j'ai le droit. Alors que si vous êtes sur votre poste de travail et que vous dites, je vais dormir, c'est... Vous pouvez essayer. Mais bon. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'on s'est dit, pour travailler la journée, parce qu'on n'avait pas l'électricité avant, il faut se réveiller à temps et temps d'heure, à telle et telle heure. Et donc, il faut absolument dormir la nuit. Mais au final, il y a des personnes qui peuvent dormir moins la nuit et avoir besoin de faire des siestes en journée, ou il y a des personnes qui vont dormir plus la nuit pour avoir pas besoin de faire de sieste en journée. Et ça, c'est des chronotypes différents. Chaque personne va avoir un petit dormeur, un moyen dormeur, un grand dormeur, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on peut rien faire contre ça. C'est juste la nature. C'est comme ça qu'on est conçu. Chaque personne va avoir ce qu'on appelle donc un chronotype différent, un besoin de temps, durée de sommeil et faire des siestes à certains moments. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des conditions idéales et de pouvoir s'autoriser à se dire, maintenant, je vais faire des siestes à telle et telle heure parce que moi, ça me convient. Mais ça, c'est vraiment si on y arrive et si notre emploi nous le permet.
Alors, Jonathan Crary, que je vous citais tout à l'heure, écrit que les espaces publics sont aujourd'hui entièrement conçus pour dissuader toute velléité d'y dormir, y compris le design des bancs publics, on le sait, et d'autres surfaces en hauteur destinées à empêcher qu'un corps humain puisse s'y allonger. Ce qui, évidemment, pose des questions éthiques vis-à-vis des personnes qui dorment dans la rue, mais on pourrait, en quelque sorte, imaginer aussi que, d'un point de vue de l'urbanisme, par exemple, on repense nos villes, on repense nos espaces pour pouvoir y faire la sieste, évidemment, en sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Vous pensez que ça arrivera un jour ?
Actuellement, ça va être assez compliqué parce qu'il y a des nouveaux bancs qui sont faits chaque année. On voit que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir dormir dessus. Mais ça serait idéal. Ça permettrait aux gens de, encore une fois, de déculpabiliser et se dire, ah, mais regardez, dans ce parc, il y a des gens qui dorment. Ah, mais moi aussi, en fait, je vais aller faire une sieste dans le parc. Je sais pas si ça arrive à certains moments, souvent en été, où vous voyez des gens qui dorment en pleine journée. Et c'est agréable. Et on se dit, tiens, je vais pouvoir le faire. Les personnes qui vivent plus dans le sud de la France, on l'a habitude de faire des siestes l'après-midi et de dormir un peu moins aussi la nuit parce que y a plus de chaleur et donc en journée on va moins travailler à ce moment-là, donc on a besoin de faire une sieste. Et c'est comme c'est culturel, on n'est pas mal jugé, alors que si c'est fait en Alsace par exemple, il fait moins chaud.
Originaire d'Alsace.
Pour ceux où savaient pas.
Premier concerné sur le sujet.
Pour les personnes qui ne savaient pas où était Strasbourg. Mais oui, effectivement, je suis en Alsace et donc il y a moins de chaleur et donc on fait moins de siestes en journée. Mais je pense que oui, on gagnerait à montrer qu'on a le droit de faire des siestes en journée à l'extérieur ou à l'intérieur.
Alors, sur le sujet, je voudrais vous citer une personne dont je suis absolument fan, qui s'appelle Trisha Hershey. C'est une états-unienne qui a écrit un bouquin qui s'appelle Rest is Resistance, qui a aussi un projet qui s'appelle The Nap Ministry, le ministère de la sieste. Et elle, en gros, elle organise depuis de nombreuses années des siestes collectives en public, et notamment dans les parcs à Chicago. Et elle le fait avec cette idée de chercher à transformer un petit peu la culture autour du sommeil. Et ces siestes collectives, elles les ouvrent notamment à des personnes afro-américaines avec cette idée, on l'a vu tout à l'heure, que ben, souvent c'est les personnes les plus fatiguées ou parmi les plus fatiguées aux États-Unis. Et donc je trouve que c'est un exemple dont on pourrait s'inspirer. Moi, je rêve qu'on organise des siestes collectives un peu partout. Ici, on pourrait, dans la salle de la Gaîté Lyrique par exemple. D'une manière générale, est-ce que Daniel, tu penses que cultiver l'oisiveté, essayer de se donner la peine d'être plus oisif, de faire moins de choses, être juste voilà, être un petit peu plus dans la flemme, dans l'oisiveté, ça peut nous faire du bien. À quoi ça sert l'oisiveté ?
L'oisiveté ou le temps où on n'est pas pris par une tâche particulière, un emploi, un travail ou quelque chose comme ça, ça va permettre de développer du temps de rien. Du temps de repos ou du temps créatif aussi, parce que quand vous êtes dans un moment un peu plus contemplatif, vous allez vous arrêter sur la petite fourmi qui est en train de se déplacer, vous allez peut-être vous poser des questions sur où est-ce qu'elle va cette fourmi, comment ça fonctionne une fourmi, et ainsi de suite, ou alors vous allez penser à un projet, une tâche d'arrière-fond auquel vous aviez commencé à penser à un certain moment, et là il y a ce champ libre qui est là devant vous, cette tâche, elle va revenir devant et puis vous allez pouvoir consacrer un peu de temps. Tiens, j'avais l'idée de faire un cadeau à cette personne. Tiens, là, maintenant, j'ai un peu le temps, je veux plus y réfléchir et je vais me dire, je vais pouvoir faire ce cadeau à cette personne. Alors que si j'avais pas eu le temps, si j'avais pas eu ce moment d'oisiveté qui est assez décrié en général, c'est pas bien de ne rien faire. Vous pouvez pas penser un peu à vous, aux autres ou à ce qui vous entoure.
Pour terminer, je voudrais me tourner vers le public. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à dire sur votre fatigue ? Êtes-vous des gens fatigués ?
Alors déjà, merci. Et en fait, moi, je suis encore à la fac et vous avez beaucoup parlé du monde du travail. Mais c'est vrai qu'autour de moi, tout le monde est super fatigué. Genre, même si on ne va pas vraiment sortir le soir ou quoi que ce soit, tout le monde est vraiment au bout de sa vie, tous les jours. Et on va le dire, en fait, on va le formuler. Et du coup, je me dis, comment en fait on va repenser ce monde du travail si même nous, à l'heure actuelle, on est au bout du rouleau? Comment on va faire pour entrer dans le monde du travail et ne même plus avoir le temps de rien faire, par exemple?
Effectivement, on parle du travail, mais il y a le travail scolaire. Donc, le fait d'être à l'école, ça fatigue énormément aussi. Et on voit qu'on met une pression dès le plus jeune âge à aller à l'école de telle heure à telle heure. Il faut être productif à l'école. Il faut faire des dessins, il faut faire des devoirs, il faut faire plein de choses. Et donc, ça fatigue énormément. Et je pense que c'est à nous tous et tous d'y penser et de se dire, on va essayer de changer les choses. On va peut-être faire comme dans d'autres pays où ils ont plus cours le matin et l'après-midi, il y a des activités plus physiques, comme ça, c'est l'exemple de l'Allemagne, par exemple, où voilà, il y a plein de choses à inventer. Et l'idée, c'est de se dire, on n'est pas obligé de rester entièrement enfermé dans ce qu'on nous impose. Donc, soyez imaginatives et imaginatifs.
Je rajouterais que moi, c'est un combat personnel. Le fait de réaliser que, je sais pas, je me rappelle, je crois que depuis mes 8 ans, j'ai haï chaque réveil qui sonnait à 7h du mat et ça s'est terminé à la fin de mes études, donc à 23, 24 ans. Et c'est vrai que c'est dingue, je crois, de se dire qu'on est dans une société qui, en réalité, nous apprend à en fait, on commence nos journées souvent, pour les gens qui ont du mal à se lever tôt, par une espèce de violence, en fait, qui est de nous sortir du sommeil, comme ça, pour aller, par exemple, sur les bancs de la fac. Donc, pas forcément de solution, mais un problème, je pense, qu'on peut identifier collectivement.
Bonsoir et merci. Moi, j'avais lu récemment quelque chose sur ce qu'on appelle le post-bedtime procrastination comme phénomène de revanche sur la journée qu'on a dû passer à travailler, donc à pas faire forcément quelque chose qu'on voulait. Et donc, en fait, d'avoir un rapport hyper conflictuel avec le sommeil, qui est d'ailleurs mon cas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté et sur lequel, qu'est-ce que vous pourriez donner comme clé pour travailler là-dessus ?
Merci pour la question. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai plus constaté que ça, que je connaissais pas du tout l'expression, le terme. Mais vous avez dit, on prend une revanche sur le temps de la journée parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. L'idéal. Voilà, l'idéal, ce serait de réussir à faire quelque chose dont vous avez envie de faire en journée. Mais bon, je sais que on peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a des moments où il y a des réalités économiques ou professionnelles où on doit faire quelque chose qu'on a pas envie de faire. Essayez de le limiter un maximum. Vraiment, essayez de limiter un maximum ce qui vous déplaît parce que voilà, et de prendre du temps pour dire, je vais partir plutôt de cette tâche que j'ai pas envie de faire et prendre du temps pour ce que j'ai envie de faire. Comme ça, quand j'aurai le temps de pouvoir me reposer et dormir, j'irai le faire avec plaisir, parce que j'aurai pas cette revanche à prendre sur vite, il faut que je regarde des épisodes de machin, parce que sinon je suis en retard.
J'espère que vous n'allez pas avoir ce phénomène après ce moment que vous avez passé avec nous.
Moi, je me pose une question de la façon dont on a d'aborder le sommeil dans nos conversations et quels mots on va choisir pour dire à quel point on est fatigué. Je voulais vous demander, c'est quoi la différence entre être fatigué et être épuisé ? Parce que souvent, enfin, t'as dit au début du podcast, Camille, on dit souvent « je suis un peu fatiguée, mais ça va ». Et on entend aussi beaucoup « je suis épuisée ». Et moi, c'est une question qui m'intéresse vachement parce que je me suis beaucoup posé la question de « est-ce que je suis pas hypersomniaque ?» Là, c'était super intéressant, mais j'ai lutté pour pas m'endormir. Et je lutte pour pas m'endormir en permanence dans ma vie dès que je suis pas sur un truc confortable et que la température est assez chaude, comme maintenant, pour me dire « là ». Je dormirais bien. Donc voilà, je suis pas là pour faire un diagnostic, mais je voulais savoir, en termes de définition, c'est quoi être épuisé ?
Justement, l'idée, c'est d'essayer de peut-être aller voir un professionnel de santé et de voir les différentes choses qui peuvent expliquer cette fatigue que vous ressentez, qui est assez forte a priori dans ce que vous dites. Est-ce que c'est quelque chose de physiologique ? Est-ce que vous êtes une personne qui a besoin de beaucoup dormir ? Ou est-ce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose d'autre qui explique que vous êtes épuisé tout le temps ? Si vous êtes une femme ou une personne menstruée et que vous perdez beaucoup de sang lors de vos règles, ça fatigue énormément. Sauf que en fait, comme c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Le médecin ne vous pose même pas la question. Donc oui, ça c'est un moment où on peut être fatigué énormément et on n'y pense peut-être pas parce que ça survient chaque mois, mais c'est quelque chose de très habituel quand même d'être fatigué pendant cette période-là. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent expliquer toute cette fatigue-là. Donc vraiment, l'idée, c'est peut-être de se tourner vers des professionnels de santé, de comprendre un peu ça. Et l'autre chose qui peut être intéressante à faire par rapport à votre sommeil, c'est de... Capucine disait avant que c'est très compliqué en fait pour les gens de dire combien de temps ils dorment. Effectivement, on ne sait pas exactement combien de temps on dort, sauf si on fait un truc très rébarbatif et embêtant, mais qui aide énormément, c'est un calendrier du sommeil. Donc vous mettez un agenda à côté de votre lit et vous marquez à quelle heure vous dormez, et à quelle heure vous levez, et comme ça vous avez quelque chose d'assez... clair et d'assez régulier, et vous faites ça sur plusieurs semaines, et après ça vous pouvez l'apporter à un professionnel de santé qui est assez à l'aise avec le sommeil, et vous lui posez plein de questions, il pourra vous dire ok, en fait là il y a tel et tel souci au niveau de votre sommeil, ou vous êtes dans une hypersomnie parce que vous avez besoin de dormir beaucoup, et donc dans ce cas-là on peut essayer de voir pour mettre des traitements en place et de vous aider.
Alors moi j'ai une question sur les enfants, parce que je travaille avec des enfants et je suis médecin scolaire, donc j'interroge souvent les parents et les enfants sur le temps de sommeil des enfants. Et pour le coup, les enfants, on peut savoir combien de temps ils dorment, puisque les parents, ils font le coucher. Et puis, en général, quand les enfants ils se sont endormis, on le sait. Hein, ils... voilà. Est-ce que on sait si le temps de sommeil des enfants a diminué avec les années, hein, depuis 5, 10, 20 ans, 30 ans. Et est-ce qu'il y a suffisamment de prévention pour les écrans ? Parce que moi, je constate que les enfants, ils ont accès aux écrans, à leur téléphone, et que souvent, dans l'heure qui précède le sommeil, les enfants, ils sont encore sur la tablette, sur le portable, il y a le grand frère qui joue aux jeux vidéo. Donc, est-ce que vous connaissez les données sur le temps de sommeil des enfants ?
Dans l'étude que j'avais, moi, non, il n'y a pas d'enfants, ça commence à 15 ans, donc temps de sommeil des enfants, j'en ai aucune idée. Par contre, ça, quoi, m'a fait penser à la question, c'est que le temps de sommeil des enfants, on peut savoir combien de temps les enfants dorment parce que les parents les couchent et les parents les réveillent. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce qu'on répond à une question qu'on nous pose, ça dépend du contexte dans lequel elle est posée. Et par exemple, si on nous demande combien de temps on a dormi, dans un contexte de santé, on va avoir tendance à surdéclarer son temps de sommeil. Si on nous demande cette question dans le cadre du travail, on va dire non, je dors très peu parce que c'est valorisé. Et alors, je ne me rappelle plus de l'étude, mais j'avais lu que quand un professionnel de santé en milieu scolaire demande aux parents combien de temps dort votre enfant et à quelle heure il s'est couché, et ben, l'enfant dort toujours très longtemps parce que les parents ont envie de répondre aux normes de bonne durée de sommeil. Mais je n'ai pas plus de réponses.
Je rebondis tout de suite là-dessus. C'est, moi, je demande en général combien de temps dort l'enfant et hier soir à quelle heure il s'est couché.
Et là, la réponse, elle est toujours différente, quoi. Elle dit, ah oui, hier soir, mais bon, c'était exceptionnel, c'est vrai, il s'est couché à 10 heures. Voilà. Et souvent, les enfants répondent aussi à la question, ils disent, non, je me suis couché tard, hein.
C'est pour ça que je parlais de faire un agenda du sommeil, parce que même nous, si on nous demande combien d'heures on a dormi la nuit dernière ou il y a une semaine, mais il y a une semaine, on ne sait plus, parce que c'était il y a beaucoup trop longtemps. Si je vous demande même ce que vous avez mangé il y a une semaine, vous ne savez peut-être plus. Par rapport au temps d'écran, j'arrive pas du tout à retrouver le nom du médecin qui a proposé ça, mais c'est la règle des 3-6-9. Donc Serge Tisseron, pas d'écran avant 3 ans, à partir de 6 ans, c'est les écrans pendant une certaine durée, et 9 ans, on peut le faire un peu plus longtemps, mais c'est toujours dans un temps accompagné. Donc oui, il y a des règles comme ça qui sont proposées. Si je ne dis pas de bêtises, c'est noté dans les carnets de santé. Mais bon, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les carnets de santé. Hein. On est d'accord.
Daniel Batoula, Capucine Rouge, merci beaucoup d'avoir parlé de fatigue et de sommeil avec moi dans cet épisode. Merci beaucoup au public et à la Gaieté Lyrique pour leur accueil. On se donne rendez-vous pour continuer cette conversation sur le site de bingebinge.audio, sur les réseaux sociaux, @encoreheureuxpodcast. Je vous invite aussi à vous abonner à Encore Heureux et à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud et produite par Charlotte Bex. Merci beaucoup.
Merci à toi, Camille.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.